12h30, 13h, François Claus sur Europe 1.
Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'information que nous allons vivre ensemble. Marlène, bonjour.
Eh oui, bonjour François, bonjour à tous.
Notre invité, vous signale tout de suite, 12h45, Jérôme Fourquet, il écrit le livre qui peut-être nous décrypte ce qui se passe en France. Ce n'est plus le temps de la fracture, mais de la dislocation. L'archipel français, Jérôme Fourquet, invité d'Europe 1 à 12h45. À partir de 13h, notre émission de reportage tout terrain, où nous irons en Algérie, nous irons sur un porte-avions et nous irons également sur cette France disloquée qu'évoque Jérôme Fourquet, cette France qui perd ses maternités, qui perd ses bistrots. Mais c'est l'heure pour le moment du journal, avec deux titres qui dominent l'actualité et deux questions. Combien de temps encore le pouvoir algérien résistera-t-il ? Une marée humaine qui a de nouveau envahi le pays pour le troisième vendredi consécutif de Oran à Tamanrasset, d'Alger à Béjaïa. Et puis combien de temps en France les gilets jaunes tiendront-ils ? 17e samedi consécutif de manifestation, les commerçants du Puy-en-Velay en Auvergne ont baissé le rideau. Le reste de l'actualité de ce samedi 9 mars, le processus de béatification d'un martyr qui s'accélère, le père Hamel, les 60 ans du jouet le plus vendu dans le monde, la célèbre poupée Barbie, et les débuts ce week-end sur notre territoire d'une passion bien française, la pêche à la truite. 12h45, bien sûr, toute l'actualité sportive avec un cocktail, trois doses, une de foot, Lyon qui joue à 17h contre Strasbourg, une de rugby, Irlande-France demain, et une de biathlon avec notre fourcade en individuel. On n'oublie pas le temps du week-end, tout à l'heure avec Valérie Darmon, c'est plutôt doux, c'est plutôt maussade, et il vaut mieux vivre aux extrémités du pays ce week-end.
Europe 1. On trace.
Jingle un peu particulier, vous l'avez compris, car c'est une journée particulière. C'est le début ce week-end de la 30e campagne des Restos du Cœur. Une campagne chère à nos cœurs ici à Europe 1, puisqu'elle fut lancée dans ses studios il y a 30 ans par Coluche. C'était pour booster cette nouvelle campagne qui a débuté. Vous avez vu les gilets roses dans les supermarchés. On a l'objectif 8 millions de repas qui doivent être servis pour les plus démunis. Était boosté, disais-je, par l'émission de TF1, le rituel des enfoirés. Alors, il y a eu hier, Mathieu Bock, bonjour.
Bonjour,
beaucoup
François,
de téléspectateurs, hein, plus de 8 millions, presque 9 millions. C'est digne d'un match de foot, c'est 44% de part d'audience. Mais le constat est là, d'année en année, eh bien, cette audience, elle baisse, Mathieu.
Oui, c'est le score le plus faible de l'histoire des enfoirés. En 6 ans, le show a perdu pas loin de 4 millions de téléspectateurs. Alors, on parle là des personnes qui regardent le spectacle le vendredi soir à la télévision. Les modes de consommation ont changé, le replay est devenu une nouvelle façon de regarder la télé, ce qui fait dire à Patrice Blanc, le président des Restos du Cœur, que ce chiffre de 9 millions pourrait augmenter et que de toute façon, il n'y a pas forcément de conséquences directes sur les ventes qui restent très importantes.
L'an dernier, en tout cas, le DVD et le CD c'était extrêmement bien vendu, hein, c'était resté en tête des ventes pendant plusieurs semaines. Donc on espère qu'il en sera de même cette année, avec des points importants comme le retour des inconnus, comme la présence de Didier Deschamps et de Kylian Mbappé, le retour de Florent Pagny aussi, ça faisait très longtemps qu'il n'était pas revenu dans le spectacle, et puis des nouveaux qui peuvent attirer également.
Alors l'enjeu, il est vrai, est important pour les restos, puisque les ventes de la billetterie du spectacle, des CD et des DVD représentent environ 12% du budget annuel de l'association.
Et on rappelle qu'un CD acheté, c'est 17 repas pour les plus démunis en France. Merci Mathieu Bock. 17e samedi de manifestation pour les Gilets jaunes, rendez-vous devenu comme un rituel à Paris sur les Champs-Élysées, où l'on va retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1 sur les Champs-Élysées. Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour François.
Alors, mobilisation des Gilets jaunes, mais ça va au-delà, c'est presque des Champs-Élysées arc-en-ciel qu'on va vivre cet après-midi à Paris.
Exactement, avec aujourd'hui les femmes à l'honneur, puisque dans le cortège aux côtés des Gilets jaunes, eh bien, on a de nombreuses militantes d'associations pour l'égalité femmes-hommes, contre les violences faites aux femmes. Et tout ça pour l'or, Gilets jaunes de la première heure, eh bien, c'est le signe que cette journée de mobilisation est décisive.
C'est aujourd'hui qu'on voit vraiment la convergence des luttes. Il y a le problème du pouvoir d'achat, il y a les problèmes qu'on revendique depuis des mois et des mois, et il y a le problème aussi de l'inégalité entre les hommes-femmes, de la violence faite aux femmes et de toutes les discriminations qu'il puisse y avoir.
Bien sûr que...
Preuve également pour l'or de cette convergence des luttes. À côté des gilets jaunes aujourd'hui, on trouve les gilets roses, des assistantes maternelles comme Brigitte qui manifestent contre la réforme de l'assurance chômage.
Bien sûr que ça nous touche aussi ce qu'ils ont, mais nous c'est tout simplement pour notre revendication. Aller contre la loi qui va sortir avec le Pôle emploi, qui va nous supprimer des indemnités de chômage, un complément pour le départ d'un ou deux enfants. C'est-à-dire que pour eux maintenant, si on ne perd pas tous nos contrats, on n'a pas de Pôle emploi.
Alors une manifestation arc-en-ciel, comme vous l'avez dit, puisque l'on a ici des gilets roses, donc aux côtés des gilets jaunes. Mais au même moment, au pied de la Tour Eiffel, eh bien, un autre rassemblement a lieu avec des gilets verts aux côtés des gilets jaunes, eh bien, pour montrer que justice sociale et climatique ne s'opposent pas.
Merci Hélène Terzian, on vous retrouvera évidemment dans les éditions du soir, tout à l'heure sur Europe 1. En Auvergne, la ville du Puy-en-Velay où les stigmates de l'attaque contre la préfecture le 1er décembre dernier sont encore bien visibles, eh bien, les commerçants ont tout simplement baissé le rideau. On annonce 3000 manifestants qui se sont donné rendez-vous sur un parking pour ensuite aller défiler dans le centre-ville. Je vous propose d'écouter ce boulanger, Dimitri, rencontré par le correspondant d'Europe 1 dans la région Auvergne, Jean-Luc Boujon.
Soit on ferme en début d'après-midi, soit on ferme fin d'après-midi. Voilà, donc soit à 14h, soit à 16h. Tout dépend de ce qui se passe, du mouvement, de la façon comment ça se passe. Sachant qu'on se prépare toujours au pire. C'est-à-dire qu'on craint beaucoup de casse parce qu'on n'a pas l'habitude de recevoir des casseurs, comme on voit à la télé, dans les grandes villes, ce qui se passe. Nous, on n'a pas cette habitude-là d'avoir ça au puits. On n'a pas non plus une grosse délinquance comme on voit ailleurs aussi. Donc forcément, le fait d'accueillir quelque chose comme ça, c'est vraiment... On appréhende vraiment et on sent sur le puits qu'il y a vraiment une crainte, une tension, une crainte aussi, surtout une bonne crainte, et on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Ça nous travaille un peu, les clients en parlent beaucoup surtout, entre commerçants aussi, pareil. Tant on trouve des solutions, ils sont barricadés au dernier moment, j'ai vu cet après-midi.
En tout cas, vous resterez pas dans le commerce, vous ?
On restera pas dans le commerce, non. On va fermer le plus tôt possible, dès qu'on peut, et l'équipe va évacuer aussitôt, pareil.
Jean-Luc Boujon a interviewé ce boulanger du Puy en Velay, en Auvergne.
Europe 1, 2h36, la suite du journal François Claus.
Personne n'a bien sûr oublié ce terrible assassinat au cœur de l'été 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray, le père Jacques Hamel, tué par deux terroristes se réclamant de Daesh. Le tribunal ecclésiastique vient de boucler un dossier de près de 12 000 pages, enquête minutieuse, pour accélérer le processus en béatification du prêtre. Enquête menée notamment par le père Paul Vigouroux, qu'Hélène Terzian a joint au téléphone ce matin pour Europe 1.
La porte d'entrée de la béatification, c'est bien le martyr du père Hamel. Cette enquête, elle a principalement été des auditions de témoins du drame, de la famille, des personnes qui ont connu le père Hamel. Et on a eu également une grande partie de collecte des homélies, des photos, des souvenirs autour du père Hamel pour constituer un dossier. C'est vrai que c'est un jour d'aboutissement, soulagement d'avoir accompli ce qu'on avait à accomplir. Et en même temps, il y a dans la famille, parmi les amis, il y a encore beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Ça reste un petit peu des souvenirs un peu douloureux. Mais il y a quand même cette espérance qui est là, qu'on va essayer d'aboutir. Un beau message, un message d'amour, de pardon et d'accueil de l'autre.
Voilà ce que disait donc à Hélène Terzian le père Vigouroux. Marlène, suite de l'actualité dans un instant, direction Alger.
Il est 12h39 et on vous retrouve François Claus pour la suite du journal sur Europe 1.
Et on va prendre la direction de l'Algérie, on n'a pas de chiffres précis mais les images parlent. On évoque donc une marée humaine du côté d'Alger, des journalistes à Oran parlent de choses jamais vues dans la rue, des manifestations qui ont atteint la Kabylie, qui ont été également dans le sud du pays, à Tamanrasset. La jeunesse algérienne, les familles, beaucoup de femmes en ce 8 mars, dans un climat, rappelons-le, toujours aussi pacifique, qui ébranle le pouvoir. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une des manifestantes d'Alger que Jean-Sébastien Soldaini a pu joindre.
Essayez d'imaginer un nombre de personnes dans quelques kilomètres carrés même. Vous ne pouvez même pas jeter une épingle tellement il n'y a pas d'espace entre les personnes. Pour nous déjà assez jeunes qui n'avons ni vécu pratiquement la décennie noire, ni la guerre, c'est vrai que c'était assez impressionnant pour nous. On a vraiment l'impression qu'on était vraiment acteurs de notre histoire. Et ça, c'est énorme. On a juste montré qu'on allait poursuivre notre mouvement, mais de façon totalement pacifique.
Voilà ce que disait donc Maria, cette manifestante d'Alger, à Jean-Sébastien Soldaini. Marlène, si je vous dis le jouet le plus vendu dans le monde, vous me répondez
quoi ?
Oh là
là, je ne sais pas. Aucune idée. Hein.
Alors, il y en a deux, en fait. Il y a Lego et il y a Barbie. On en a vendu plus d'un milliard en 60 ans. Et pourquoi je vous parle de Barbie ? C'est parce qu'elle a été créée un 9 mars. Donc, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Barbie. Elle était le symbole des femmes soumises. Elle est devenue la femme moderne, Barbie astronaute. Il y a une Barbie footballeuse aujourd'hui. Il y a la Barbie noire depuis les années, fin des années 60. La Barbie avec un voile dans les années 2000. Mes questions, cette Barbie, est-ce vraiment seulement pour les filles ? À l'heure où l'on essaye justement de différencier les genres, enquête menée par Pierre Herbulot pour Europe 1.
Quelle que soit sa tenue, son métier ou sa couleur de cheveux, Barbie provoque presque toujours la même réaction chez les garçons.
Je trouve que c'est pour les filles.
Et pourquoi ?
J'en ai aucune idée. Parce que c'est des filles !
Il y a plutôt les couleurs, le rose, le violet.
Pourtant, cette idée qu'il y a des jouets réservés aux filles, elle n'est pas innée. Evelyne, maman d'une petite fille, l'a bien remarqué.
Je voyais qu'à la crèche, les enfants jouaient vraiment au même jeu. Il y a des garçons qui jouent à la poupée, des filles qui jouaient aux voitures, parfois même dans les déguisements, et des garçons qui se déguisent en princesse. Enfin, voilà.
Alors, qui met ces idées dans la tête de nos enfants ? Un peu tout le monde, pour Catherine Monod, spécialiste dans la création des stéréotypes.
C'est un ensemble. La famille, dans les premières années, les enfants sont des vecteurs eux-mêmes dans les cours de récréation et exercent une forte pression qui est alimentée en amont par les médias et par l'industrie du cosmétique, l'industrie du vêtement, du jouet.
Mais les choses évoluent, la preuve par le son avec Baptiste, élève en CE1.
Est-ce que tu as déjà joué toi avec des Barbie ?
Ouais, j'ai déjà travaillé sur l'égalité filles-garçons. Je dirais que c'est plus pour les deux.
À l'école ?
Oui, il n'y a pas longtemps avec ma remplaçante.
L'école reste d'ailleurs, d'après la chercheuse, l'un des meilleurs moyens de combattre ces stéréotypes.
Et oui, tout passe par l'éducation. Allez, on va finir ce journal avec une grosse attente pour des millions de Français. Vous savez ce qui se passe ce week-end ? C'est à la fois un rituel, un sport, une passion. L'ouverture de la pêche à la truite. On ne dit pas pêche, on dit plutôt chasse. Notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon, gaule à la main et micro à la main, a remonté la petite rivière du Kerzalo dans le Morbihan. Et là, il a rencontré un vrai passionné. Je vous le donne en mille. Il s'appelle Monsieur Latouche.
On dort très peu la nuit, voire pas du tout. Je ne suis même plus drogué, c'est complètement fada, on va dire. Je fabrique mes mouches moi-même. C'est la nature qui s'éveille. On voit les oiseaux. Et bien souvent, je me suis laissé surprendre parce que je regarde un rouge-gorge au-dessus de ma tête ou je vois un écureuil devant moi. Et puis, hop, trop tard, loupé. Hop, il y a eu quelque chose là-bas. Là, juste devant. Nous, on les voit pas. Elles nous voient bien. Ça, c'est sûr et certain. C'est une chasse. Hein. C'est un peu le chat et la souris. Il faut pas qu'elles vous voient, c'est tout. Quand vous avez une truite au bout, c'est magique. Vous voyez, là, ça fait un courant. Là. Et au fond, là-bas, il y a un gros trou noir. Et il faut essayer de la surprendre. D'imiter ce qu'elle voit dans l'eau. Il faut changer plusieurs fois de mouche. Il faut chercher. C'est comme un jeu de piste. Hein.
C'est comme un jeu de piste. Et si on a un vrai chasseur de truite, on la remet dans la rivière une fois qu'on l'a attrapé, témoignage recueilli par François Coulon. Allez, un chiffre pour terminer. 2 700 000, c'est le nombre d'albums de Johnny Hallyday qui se sont vendus depuis sa disparition. Un chiffre qui ne va pas apaiser les déchirements familiaux autour de l'héritage.
Le journal des sports.
Bonjour Cyril de la Morinerie.
Bonjour François Claus.
Alors on va commencer par un sport qui n'est pas forcément le plus populaire mais qu'on aime en France parce qu'on a un héros, le biathlon.
Avec Martin Fourcade pour ces mondiaux qui se passent en Suède. C'est le grand jour pour lui, première épreuve individuelle de ces mondiaux avec le sprint homme et test grandeur nature pour le quintuple champion olympique, le pyrénéen de 30 ans. Et dans l'incertitude, Martin Fourcade n'a plus disputé une course en solo depuis le 27 janvier dernier, mais surtout après 7 années de domination, le Français n'a gagné que 2 épreuves cette saison en Coupe du Monde. Il est donc en grande difficulté, à tel point qu'il a dû faire une pause inhabituelle de 5 semaines. Martin Fourcade.
Finalement, voilà, cette période de break, elle m'a fait prendre conscience que l'anomalie, elle était plutôt dans la première partie de ma carrière que dans l'épreuve que je vivais sur ce début de saison. Donc c'est aussi quelque chose qui permet de relativiser et d'apprécier ce qu'on a pu faire et puis de se relancer aussi sur les défis qui arrivent avec beaucoup de positivité.
Martin Fourcade, interrogé par l'envoyé spécial d'Europe 1 à Östersund en Suède. Axel May, début du sprint de biathlon à 16h30 cet après-midi. Une course de 10 km entrecoupée de 2 séances de tir.
Et puis Cyril, après les émotions européennes du milieu de semaine, retour au championnat de France de football, la 28e journée. Lyon à 4 jours d'un match à Barcelone. On va se demander même s'ils ne vont pas se qualifier maintenant que les petits gagnent tous. Pourquoi pas Lyon contre Barcelone ? 0-0 à l'aller, on rappelle. En attendant, les Lyonnais doivent jouer à Strasbourg cet après-midi.
Exactement, et coup d'envoi à 17h. L'OL, 3e de Ligue 1, va tenter de poursuivre sa belle série. 2 défaites seulement lors de ses 11 derniers matchs, tout en préparant déjà le choc à Barcelone en ménageant certains cadres. Mais attention, le meilleur moyen de se mettre en jambes, c'est de gagner, rappelle l'entraîneur Bruno Genesio.
On a besoin de gagner parce que je pense que la meilleure des manières de se préparer est d'accumuler de la confiance. Je l'ai déjà dit il y a 10 jours, on a gagné 2 matchs de suite en Coupe de France, en championnat. Il serait bien de continuer sur ce rythme pour accumuler de la confiance.
Bruno Genesio, quant au FC Barcelone, il recevra à 18h30 le Rayo Vallecano.
Et puis demain soir, alors qu'on va suivre Monaco qui joue cet après-midi contre Bordeaux, Amiens.
face à Nîmes. Et puis Reims, 6e de Ligue 1, 11 matchs sans défaite, qui se déplacera à Dijon.
Et demain soir, le grand match du dimanche, eh bien, c'est le derby du Sud entre l'OM et Nice. Et entre les deux, un certain Mario Balotelli, ex-niçois, devenu marseillais, qui filme ses buts.
Oui, 4 buts notamment inscrits avec ses nouvelles couleurs. Et l'ancien niçois révèle aujourd'hui dans le quotidien La Provence qu'il souhaite rester à l'Olympique de Marseille. Sous-entendu, même si Marseille n'est pas européen à la fin de la saison, il aime ses ambiances incandescentes. Le Vélodrome, c'est un peu comme les stades de Naples ou Beşiktaş en Turquie. Et puis surtout, dit-il, Balotelli considère donc Marseille comme le plus grand club de France, ce qui va forcément plaire aux supporters.
Et pas seulement aux supporters. après avoir été humilié par les Anglais, après avoir été renaissant face à l'Écosse, on retrouve nos rugbymen qui vont jouer, là c'est dur, hein, deuxième nation mondiale en Irlande demain 16h.
Ouais, et pour commencer, on va suivre les Françaises, puisque les Françaises jouent ce soir à 20h. Et malgré une lourde défaite contre les Anglaises, les Bleus n'accusent que 4 points de retard au classement grâce à leur succès face aux Écossaises. Mais pour espérer s'imposer dans ce tournoi, il faudra, quoi qu'il arrive, bien qu'elles battent les Irlandaises chez elles ce soir. Et peu importe si la pluie est annoncée, la capitaine Galermé est ambitieuse.
C'est vrai qu'on sait très bien que ça va être un climat un petit peu particulier. Voilà. En plus des conditions météo, il y aura aussi le fait qu'on se déplace à l'extérieur et que voilà, c'est un tout autre public. Maintenant, c'est pas parce qu'il y aura tout ça qu'il faut qu'on limite notre jeu ou au contraire qu'on le restreigne. Non, on va jouer comme on joue, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ce sera pareil.
La capitaine du 15 de France, Galermé, au micro Europe 1 de Simon Rubin.
Alors, est-ce qu'on va aller au stade? Est-ce qu'on va rester devant son canapé? On va le savoir dans un instant, parce qu'il nous reste à voir la météo.
Et oui, augmentez votre confort thermique et acoustique pour longtemps avec les fenêtres ArcadeB. Plus d'infos sur arcadeb.com. ArcadeB vous présente la météo, François.
Alors Valérie Darmon, il vaut mieux vivre aux extrémités du pays en ce samedi.
Absolument François, au nord de la Seine où la matinée était bien couverte, mais au sec justement, les pluies vont arriver un petit peu plus tard dans la soirée. Ce sera le cas aussi en région parisienne, car avec un peu de chance, on pourra profiter de quelques heures de trouées ensoleillées cet après-midi, comme dans les Hauts-de-France, en Normandie et dans le nord de la Bretagne. De l'Aquitaine jusqu'aux Alpes du Nord, les passages nuageux resteront assez nombreux et porteurs de quelques gouttes ici ou là. Plus au sud, des Pyrénées jusqu'à la Provence, Alpes-Côte d'Azur et la Corse, cet après-midi s'annonce aussi agréable que ce matin, avec de belles éclaircies, un soleil tout juste voilé. Le vent souffle aussi sur les côtes, on en reparle ce week-end, à 70-80 km/h le long des côtes bretonnes, 70-80 également en rafale entre le littoral varois et la Corse. Les maximales vont atteindre 11 à 15 degrés sur la moitié nord, 14 à 18 sur le sud, jusqu'à 22 près de la Méditerranée. Elles sont pile poil dans les normales de saison.
Merci Valérie Darmon.
Il est 12h49.
Témoin de la semaine, plutôt témoin des derniers mois, voire des dernières décennies, car nous recevons aujourd'hui Jérôme Fourquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit un livre qui fait beaucoup de bruit, enfin qui nous éclaire sur l'actualité, notamment des derniers mois, qu'elle soit politique ou sociale. Vous êtes analyste politique, directeur du département opinion à l'IFOP. Vous avez appelé ce livre « L'archipel français ». Alors, j'ai regardé la définition d'archipel. C'est un ensemble d'îles relativement proches. Et généralement qui viennent d'une origine commune, volcanique. Alors on va essayer de voir quel est ce volcan qui a créé l'archipel français, puisque c'est le titre de votre livre. On avait tendance, Jérôme Fourquet, à parler d'une fracture sociale, d'une fracture politique. Vous allez plus loin avec cette image de l'archipel, c'est le temps de la dislocation.
Alors effectivement, des diagnostics ont été posés de longue date, hein, sur la fameuse fracture sociale, en 95 déjà, pendant la campagne présidentielle, mais en rassemblant avec mon collègue Sylvain Montagnac, toute une série de données, on s'est aperçu qu'en fait, ce n'était pas une fracture, mais plutôt une dislocation, une fragmentation tout azimut auquel on assistait depuis quelques décennies maintenant. Fractures qui sont multiples, à la fois sociologiques et territoriales. La question, le mouvement des Gilets jaunes en est un exemple patent, mais également une fracture culturelle, une fracture démographique, une fracture aussi sociétale, avec des catégories supérieures qui se sont progressivement repliées sur elles-mêmes, des milieux populaires qui sont en état d'autonomisation, et puis également fait majeur au cours des dernières décennies, puisqu'on essaie de faire une espèce de travelling arrière sur les 40 ou 50 dernières années, l'arrivée d'une population issue d'une immigration qui a bouleversé en profondeur le visage et le paysage de la société française.
Alors sur le bandeau de votre livre, il y a le constat « Où allons-nous ?». On avait le sentiment que cette histoire de France, que la géographie de la France elle-même, que cette capacité à agréger des régions et les vagues d'immigration étaient plutôt une richesse française. Aujourd'hui, on est dans une période, dites-vous, de grosses inquiétudes, au contraire.
Alors en fait, ce qui se passe quand on reprend le début du livre, c'est que les éléments qui structuraient l'espèce d'armature qui a permis à la France de tenir à peu près d'un bloc, si même on n'est pas dans la nostalgie, il n'y a jamais une homogénéité parfaite, ces forces-là, ces matrices-là, je parle notamment de la matrice catholique, tout ça s'est disloqué au cours des dernières décennies.
Alors vous évoquez la matrice catholique qui a soulevé des polémiques peut-être un petit peu nauséabondes et sur lesquelles on n'est pas obligé de revenir immédiatement. Les autres matrices qui ont, parce que la baisse du sentiment religieux, elle atteint aussi toutes les autres démocraties occidentales quasiment.
Alors effectivement, mais...
Les autres matrices spécifiquement françaises.
Alors on avait, la société française est organisée sur un duopole entre un bloc catholique d'un côté et un bloc qu'on pourrait appeler républicain et laïque, avec une force importante dans ce bloc qui était la contre-société communiste. Tout ça aussi, à peu près dans les mêmes périodes, les dernières décennies, tout ça a volé en éclats, tout ça s'est disloqué. Un des principes actifs de la fragmentation, c'est la montée en puissance de l'individualisation, l'individualisme. Et on le mesure, par exemple, de manière assez comique.
Oui, sur des
prénoms.
Des prénoms, c'est une étude.
Voilà, donc on s'est appuyé sur un fichier de l'INSEE qui recense toutes les naissances depuis 1900 et qui associe les prénoms qui ont été donnés à chaque fois. Et on s'aperçoit que jusqu'aux années 50, la France a fonctionné avec un stock de 2000 prénoms. Quel que soit le nombre de naissances, on travaillait toujours. Il y avait un cadre qui était fixé et on n'en sortait pas. On est aujourd'hui, sur les derniers pointages, à plus de 13 000 prénoms donnés pour les prénoms, entre guillemets, les plus courants, puisqu'il y a 50 000 enfants qui échappent à cette classification, qui sont mis de côté par l'INSEE, puisque ces prénoms qui leur ont été choisis n'ont été donnés qu'au mieux deux fois dans l'année. Donc on voit que ce processus d'individualisation qui s'exprime notamment à travers des prénoms, mais il y aurait de très nombreux autres exemples.
Alors vous évoquez le tatouage, vous évoquez également la disparition des corps, l'incinération, phénomène qui illustrerait cette dislocation. La réponse politique, c'est que pour le moment, elle est disloquée aussi.
Alors effectivement, le Big Bang auquel on a assisté en 2017, quelque part, on peut le traduire comme une mise en conformité du paysage électoral avec la réalité fragmentée de la société française. Et pendant quelques décennies, 20-30 ans, du fait de la puissance des appareils politiques traditionnels, du fait du mode de scrutin à deux tours, le clivage gauche-droite demeurait dominant, mais il ne rendait plus compte de la diversification de la société française et il n'était plus adossé sur des clivages structurants. Et donc, on est aujourd'hui dans une ère nouvelle. Et on peut penser que 2017 n'a pas été un accident. On n'a pas beaucoup de recul encore, mais il n'y a que 2 ans qui se sont écoulés. Mais quand on regarde les enquêtes d'opinion pour les européennes, par exemple, on voit de nouveau que les deux forces qui sont en tête aujourd'hui sont les forces qui ont fini finalistes à l'élection présidentielle, le parti d'Emmanuel Macron et le Rassemblement national de Marine Le Pen.
Dernière question, Jérôme Fourquet. Vous avez le sentiment que cette France-là, aujourd'hui, qui ne vit plus ensemble, qui vit l'une à côté de l'autre, que ce soit les régions, que ce soit socialement. Elle a une spécificité dans le monde qui nous entoure.
Alors, on est dans un phénomène qui est assez global. Les lignes de clivage, notamment sur le diplôme, entre une France d'en haut et une France d'en bas, on le retrouve aux États-Unis dans le vote Trump-Clinton, on le retrouve au moment du Brexit aussi en Grande-Bretagne. La spécificité française, peut-être, par rapport à ces nations anglo-saxonnes, c'est que c'est une rupture par rapport à une histoire de longue durée.
Et qui faisait notre unité.
Et qui faisait notre unité, tout à fait. Donc aujourd'hui, on est dans un archipel français, non plus la République une et indivisible.
Et de temps en temps, les îles, on peut les agglomérer de nouveau,
et géographiquement. Il faut espérer que des ponts puissent être tissés.
Comprendre la France d'aujourd'hui, ses fractures, ses divisions. Lisez, on aurait eu besoin de plus de temps pour le détailler, mais Jérôme Fourquet, l'archipel français, s'est publié au Seuil.
Et dans un instant, Tout Terrain, l'émission Grand Reportage d'Europe 1, restez avec nous.
François Claus sur Europe 1.